20h02 et tout de suite retrouver votre nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Génération Sport au sein de Radio G sur le 101.5 si vous êtes dans la région Angevine ou sur Internet si vous êtes partout dans le monde. Je sais qu'on nous écoute un peu à Los Angeles aussi, donc donc voilà. Non mais on fait profiter un peu le réseau familial un peu de droite à gauche quoi.
Multiplex.
Donc voilà, un petit multiplex des régions à l'avenir en tout cas pour les écoutes de Génération Sport et de Radio G. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre sur l'émission sportive de Radio G. On vous souhaite tout d'abord une merveilleuse année 2025, de la joie, de la santé, du bonheur, forcément de la santé un peu plus quand même pour tout le monde. N'est-ce pas Faustin ? J'espère que ça va être bien au niveau de la santé.
Pas de blessure pour moi cette année.
7 jours en 2025, et pour l'instant il n'est pas blessé. Voilà. L'occasion pour moi de te saluer quand même. Bonsoir Faustin.
Bah, bonsoir Florian. Pas de blessure, mais déjà une maladie en 2025. Oh. Mais ça va, je suis guéri. Contrairement à nos deux compères qui sont absents ce soir.
Exactement, c'est ça. On salue Amaury, on salue Cédric, on leur souhaite une bonne année à distance. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu malades.
Voilà. Ouais. Je l'étais aussi dès le premier de l'an. Donc,
ah oui.
J'ai bien démarré l'année.
T'as très bien démarré l'année. Mathéo, est-ce que tu as très bien démarré l'année également ? Bonsoir à toi.
Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Très très bien démarré l'année aussi, toujours pas malade. Donc ça c'est aussi une victoire de mon côté. Et puis
c'est
on
parfait.
Passe une super belle journée. Voilà, donc super, ouais, tout est beau en 2025. Et merci encore une fois à nos auditeurs d'être fidèles à Génération Sport une année supplémentaire.
C'est vrai qu'on a fêté les 10 ans en septembre dernier de Génération Sport, enfin de Quake 9 dans le dojo qui est devenu Génération Sport par la suite. Et on va essayer de la faire continuer le plus longtemps possible, pérenniser cette émission le plus longtemps possible. Mais en tout cas, c'est vrai qu'une nouvelle année s'ouvre avec forcément du sport. On va en parler, forcément, ça s'appelle Génération Sport. On va parler du 49, on va parler donc du SCO aujourd'hui, notamment avec la victoire ce week-end face à Brest, qui a été très importante et qui fait du bien au moral. Pas forcément qu'aux joueurs, mais aussi aux supporters. On a senti beaucoup de joie et de plaisir au stade autour de Raymond Coppa. Donc ce week-end, ce dimanche, on va parler basket avec toi, Faustin, parce qu'il y a de l'actu aussi, évidemment. Ça s'est pas arrêté pendant les fêtes. Il y a eu l'All-Star Game au niveau de France,
ouais.
En LNB. Cholet a continué un peu à gagner aussi pendant les fêtes et bien évidemment. Avec l'UFAB aussi dont on va parler. Mais voilà le programme de la journée, enfin de la soirée, mais aussi une petite rétrospective 2024. On va donner voilà Faustin, Mathéo et moi-même, on va donner aussi notre petit coup de cœur. Voilà ce qui nous a fait plaisir sur 2024 ou pas seulement. Si vous avez un coup de gueule aussi à passer, n'hésitez pas. Donc voilà, vous êtes sur le 101.5 pour Génération Sport et on est ensemble pour parler foot. Mais aussi basket avec toi Faustin, donc qu'est-ce qui s'est passé sur la planète basket dans le 49 notamment pendant les fêtes mais aussi là il y a le week-end dernier.
J'ai commencé par le week-end dernier directement avec la victoire de l'UFAB qui commence très bien son année 63-51 face à Tarbes. Au classement ça leur fait être à la 6e place juste devant Tarbes justement. Voilà donc 6e place c'est synonyme de play-off pour le moment, surtout éviter le play-down, on sait c'est ce que l'équipe vise depuis des années, mais là vu le début de saison on peut viser un peu mieux je pense que les saisons précédentes où il y a déjà eu des victoires face à des grosses équipes. On va voir comment ça va dérouler, mais pour l'instant toujours un très bon début de saison de la part de l'UFAB.
Ouais, on va essayer de les avoir en 2025, de faire revenir au moins quelqu'un de l'UFAB pour évoquer cette saison qui est quand même très très belle. On s'attendait pas forcément à ça quand on a vu l'effectif totalement remanié l'été dernier, de voir cette équipe avoir de très très bons résultats depuis le début de l'année, depuis le début de la saison. Franchement, ça fait plaisir à voir et on va essayer de les avoir au sein de Génération Sport.
Ouais, ce serait sympa d'avoir une petite interview comme on faisait. Avant, quand t'es en partenariat avec le club.
On a eu le AB qui est venu.
Avec Mathéo Valton.
Exactement. Et du coup, qui joue ce soir d'ailleurs.
Ouais, il joue ce soir. Alors, je vais retrouver un peu tout ça. Mais si ça veut bien charger. Mais oui, en tout cas, il joue ce soir, sachant qu'ils avaient gagné leur dernier match avant.
On en avait parlé ici. Ouais.
Voilà, avant la trêve, ce qu'ils leur avaient permis, bon, ça veut pas charger mon application.
C'est pas grave.
Tant pis, je trouverai peut-être pendant l'émission. Mais ils avaient gagné, ouais, juste avant les vacances, ce qui leur avait fait un peu de bien, surtout au moral. C'était contre le Pôle France, donc l'équipe qui est dernière au classement, l'équipe de l'INSEP. Donc on espère que ça va continuer ce soir. Le match il est à 20h il me semble, donc on pourra tenir au courant pendant l'émission de l'avancée du score. Mais ouais, on va espérer qu'ils se relancent en 2024, qu'ils arrivent à mieux gérer ces fins de match, en 2025 plutôt, qu'ils arrivent à mieux gérer ces 20 matchs comme Mathéo nous l'avait expliqué ici. Et on espère que ça ira mieux, qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif de top 7.
Ouais, de top 7 exactement, c'était leur objectif de au moins de se maintenir rapidement et de voir un peu, peut-être un peu plus haut, de disputer ce petit play-off qui pourrait agrémenter un peu une fin de saison. Mais ils en sont capables, on sent qu'ils ont cette envie, donc on y croit vraiment pour eux. Est-ce que tu as d'autres infos basket, Mathéo? Faustin, excuse-moi.
Justement, j'ai retrouvé l'équipe, ils jouent contre le Valois Métropolitain ce soir à 20h là-bas.
Ah, les Métropolitains de...
Je suis pas sûr que ce soit
pas les Mets.
Non, il me semble pas. Ça m'étonnerait quand même qu'ils soient déjà en N1.
Ouais, mais ça, bon, ça peut arriver très vite. Hein.
Je reconnais pas le logo, donc il me semble pas que ce soit ça.
Bon.
Voilà.
En LNB, il y a eu le All-Star Game, il y a eu les Choletais, bien évidemment, qui se sont, distingués. Mais surtout, une belle équipe de Cholet qui s'est inclinée pendant les fêtes face au Mans.
Ouais, c'est ça, juste avant de partir. C'était le 27. Voilà, 92-86 face au Mans, ce qui leur fait conserver leur première place au classement. Ils ont en plus de ça rattrapé le match de retard qu'ils avaient. Bah, il me semble que c'était celui-là face au Mans. Mais ils restent premiers, du coup, avec 11 victoires, 3 défaites, à égalité avec l'Asvel, et juste devant Paris Basket, qui est en 10 victoires et 4 défaites.
Là aussi, très très belle saison, un très bon début de saison des Choletais. On les attendait pas forcément, mais on pourra en revenir tout à l'heure dans la rétro 2024. Excusez-moi pour le micro. Pour la rétro 2024 de nos sportifs, que ce soit angevins ou français ou même à l'international. On va parler football maintenant avec cette victoire du SCO. Est-ce que t'as d'autres infos basket quand même avant pour terminer?
Non, c'est bon pour moi.
C'est bon pour toi? T'as regardé le All-Star Game ou pas?
Non, j'ai pas pu le regarder.
C'était intéressant.
J'ai vu le petit tour dans un contre un.
Ouais.
Franchement, la NBA devrait
s'en inspirer.
Regarder un peu en France ce qui se passe.
Bah, peut-être, pour une fois. Franchement, c'est vrai que ce All-Star Game français est vraiment une réussite, en tout cas, de voir ce petit un contre un. Même le match après des étoiles, enfin, le match All-Star a été vraiment très intéressant. Avec, Mike James qui fait exprès de rater ses lancers francs.
Oui. Oui.
Bon, pour continuer à avoir une belle prolongation, pour aussi donner un peu de spectacle au public, c'est vraiment très intéressant. Donc on va voir si le All-Star Game américain aura la même tenue que celui des Français, mais en tout cas c'était une vraie réussite à l'Accor Hôtel Arena de Paris-Bercy.
Vraiment, c'est les 1 contre 1, ça m'a vraiment fait kiffer.
Ça t'a hypé?
Ouais, ça c'est voir ça vraiment des joueurs qui se la mettent comme ça en 1 contre 1 devant tout le monde, c'est vraiment un bon concept, je trouve.
Et tu te mets en danger par contre. Tu te mets vraiment en danger parce que là il y a personne d'autre que toi. Ouais, c'est ton rôle de défenseur, quoi. Donc,
c'est bien mieux, je trouve, qu'un skill challenge où tu fais des zigzags et des passes dans des plots, quoi. C'est bon.
Ouais, c'est terminé, ça. Voilà. C'est clair. Bon. Ouais, peut-être que les Américains vont regarder ce qu'on fait les Français. On ne sait jamais.
Rien d'annoncé pour le moment.
On ne sait jamais. Je ne sais pas si les Américains ont regardé le match du SCO ce week-end, mais en tout cas, ils auraient vu une belle victoire, en tout cas, pour cette première journée de l'année 2025, avec cette victoire face à Brest. Mathéo, 2-0, une victoire très importante pour les Angevins.
C'est ça, une victoire hyper importante pour le SCO, comme tu l'as dit. C'était peut-être l'équipe All-Star angevine des meilleurs joueurs 2024. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait trois changements par rapport à l'équipe de Rennes. Donc toujours ce 4-2-3 qui semble être la bonne composition, en tout cas pour du jeu. Avec notamment des changements en défense. Donc la réintroduction de Emmanuel Biumla, qui s'était blessé lors de la dernière rencontre qu'il avait faite pour l'équipe de France U19. On a également eu un changement sur le front de l'attaque avec Esteban Le Poll titularisé. C'était la première fois depuis septembre, donc c'était une chose assez étonnante, et il faut dire que ça a marché puisqu'il a marqué dès la sixième minute. Alors, en tout cas, cette équipe angevine a été très solide. Je sais pas ce que toi t'as pu en tirer, donc toi qui étais au stade Flo, l'impression que t'ont donné ces joueurs, avec notamment donc cette belle défense qui a été très compacte. C'est la grande satisfaction de cette rencontre, sans doute notamment des latéraux.
Franchement, c'était peut-être le meilleur match du SCO depuis le début de la saison, je trouve, d'un point de vue collectif. Ils le font plus face à une équipe qui joue l'Europe, donc même s'il manquait 2-3 joueurs côté brestois.
Top 10 Ligue des Champions.
Mais top 10 Ligue des Champions, exactement, c'est vrai.
Qui se donnait un peu de prestige.
Ouais, ça fait une belle victoire donc pour le SCO à Copa, du coup, avec une équipe face à une équipe top 10 Ligue des Champions. Mais en tout cas, c'est vrai, j'ai trouvé collectivement parlant, du Lyon, j'ai trouvé ça intéressant. Beaucoup de joueurs ont fait leur meilleur match de la saison. Enfin, beaucoup. Notamment nos deux latérons. Je trouve que Hanin et Arcus, comme tu le disais, ont fait vraiment un très bon match. Biumla m'a vraiment impressionné. Enfin, je trouve qu'à 19 ans, avoir cette sérénité-là... Bon, après, voilà, il faut qu'il progresse encore sur plusieurs actions, mais c'est plus qu'intéressant.
Et puis toi qui étais au stade, en plus, c'est une vraie tour de contrôle. Hein. Donc vraiment, il t'impose cette sérénité visuelle quand t'es plus proche de lui.
T'as pas l'impression qu'il a 19 ans, en fait. T'as l'impression qu'il joue parfois comme un mec qui a 22, 23, 24 ans, qui ont déjà un peu de bouteille en Ligue 1, qui a enchaîné 2-3 saisons et tout. Là, c'était vraiment très intéressant à voir, en tout cas pour lui. C'est un jeune joueur, donc ça peut que aller en avant, en s'améliorant. Enfin, je vois pas d'autres raisons pour lesquelles, enfin, ses performances seraient cataclysmiques, mais... Après, voilà, c'est le Paul en neuf. J'ai trouvé ça très intéressant. Il faut ce type de joueur et je pense que ça fait plaisir aux supporters aussi d'avoir un joueur qui court, quoi, qui
c'est
donne.
Pas la même chose que Nian, ça c'est évident.
Ouais, c'est autre chose. C'est un autre registre. Un peu plus buffle, je trouve. Tu vois, Nian est vraiment plus grand et lancé. Le Paul a vraiment ce côté, va chercher les défenseurs, court. Il faudra peut-être qu'il arrive à mieux à gérer son pressing, ses efforts, parce que c'est vrai qu'il était vite cramé après la 70e, enfin la 65e. Donc les changements du jeu ont apporté beaucoup de choses. Donc maintenant c'était une victoire très importante. Et je trouve, quand tu voyais, je vais parler un peu des offs, j'étais avec un ami pour voir ce match et ce pote me dit on va en prendre une valise. Et quand tu voyais un peu la physionomie du début de la journée, enfin de vendredi, samedi et donc de dimanche, tu te dis bon bah écoute, pourquoi pas, en fait c'est possible que le SCO prenne au minimum un point. Donc après, c'est sûr qu'on prend trois, c'est encore plus beau, mais je pense que tu vas en parler au niveau du championnat, c'est plus qu'intéressant pour le SCO.
Ouais, bien sûr, parce que forcément, comme tu l'as dit, on a des clubs derrière qui ont gagné ou qui ont fait des plutôt bons bonnes prestations, hein, forcément. Alors Nantes a perdu et Montpellier a perdu, mais sur la plus petite des marges, et puis c'est vraiment une marge qui est pas significative, en tout cas de l'apport de leurs joueurs sur le terrain. Je pense notamment à Montpellier, qui semble au fond du trou, qui a réalisé un très grand match contre l'Olympique Lyonnais. Donc à ce niveau-là, on a des équipes qui vont se battre, qui montrent qu'elles peuvent se battre. Et le SCO allait chercher ses 3 points, 2-0 contre Brest, dans ce climat-là, c'est hyper intéressant, sachant que d'un autre côté, l'eau concurrent du SCO, et surtout depuis l'année dernière, on pourra en reparler en fin d'émission forcément quand on fera notre rétrospective, mais l'adversaire principal du SCO sur cette année 2024, c'était l'AS Saint-Etienne, club qui a aussi gagné, qui en a mis 3 à Reims. Donc forcément, réagir par rapport à ce résultat-là et avec cette manière-là, c'est hyper intéressant. Et moi, je voulais rebondir sur quelque chose, sur Esteban Le Poll, toujours ce rôle de neuf. Est-ce que avec Esteban Le Poll, qui a une couverture de terrain beaucoup plus large que Nian, on n'a pas trouvé cet équilibre entre un attaquant movible qui peut réaliser des prestations on va dire changeantes par rapport à Nian qui n'a pas cet apport là et qui l'aurait plus en sortie de banc pour aller finir en contre-attaque, comme là ça a été le cas, ce qui est un équilibre plutôt intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Flo?
Bah, en fait, le truc c'est que ça va me donner l'impression, après maintenant il faut voir s'ils sont capables de le faire techniquement, c'est que c'est les quatre mecs de devant, on va dire, parce que bon, tu joues en 4-2-3-1, d'accord, mais El Melali peut replonger dans l'axe, Abdelli aime aller se projeter aussi, Le Paul bouge pas, couvre beaucoup le terrain. À droite, c'était Jim Alevina là qui était présent, mais ça pourrait être peut-être un autre joueur à l'avenir que t'aimes beaucoup. Je sais pas si à l'avenir, j'aimerais bien qu'il revienne le plus rapidement possible, mais ça va être un peu plus compliqué pour lui, c'est sûr, la blessure est importante. Mais d'avoir ce neuf qui est capable de couvrir beaucoup de terrain va te permettre peut-être à tes joueurs offensifs de prendre la profondeur et de repiquer dans l'axe et donc à voir. Maintenant c'était Brest en face avec des joueurs d'expérience, hein, Chardonnay a son expérience en Ligue 1, Marco Bizot le gardien est quand même une valeur sûre du championnat, t'avais Massadio Aïdara aussi qui était là sur le côté gauche, qui a eu une très longue carrière en Ligue 1 à Lens notamment. Enfin voilà, t'avais des joueurs qui avaient de la bouteille en Ligue 1 et on a réussi à bouger ce groupe. Alors c'est sur un match, c'est sur le premier match du mois de janvier. Maintenant, faut avoir de la continuité avec Montpellier qui se profile à l'horizon. Tu vas avoir Auxerre aussi, donc tout en ayant la Coupe de France au milieu. Donc t'as les 3 prochains matchs, donc 2 en championnat, qui doivent être. Tu dois au minimum prendre 3 points, si ce n'est 4, quoi.
Puis là où c'est rassurant avec le SCO, c'est que c'est des matchs qui suivent et qui se ressemblent plus ou moins. Alors on a souvent soit l'attaque qui est meilleure, soit la défense qui est meilleure que sur les matchs précédents. Mais c'est vrai qu'on a ce truc de cette équipe-là, elle est largement meilleure que ce qu'on avait prévu au début de la saison et elle continue de nous étonner finalement.
Ouais, et puis tu te dis que au final, après quand t'es en bas, il y a aussi le fait de pas être la moins pire. Enfin, faut que tu sois la moins pire, parce que mais là cette année, il y a quand même des équipes qui sont vraiment pires que le SCO, et donc c'est une chance. Et tu vas la jouer notamment en plus. Donc clairement, je sais pas ce que t'en penses Faustin, mais à un moment donné, le prochain match à l'extérieur, faut aller le gagner quoi.
Mais c'est pas comme il y a deux ans en Ligue 1 où on était vraiment la pire équipe de Ligue 1, parce que vu la saison, la pire saison de Ligue 1 de tous les temps. Là, il y a le SCO sort son épingle du jeu. Clairement, on le voit régulièrement, même contre les grosses équipes. En fait, il y a pas que le SCO va pas chercher des points que contre ses adversaires directs. Et c'est ça aussi qui nous met assez bien au classement, 14e avec 16 points. Mais ouais, c'est clair qu'aussi la semaine prochaine va falloir gagner impérativement, parce que laisser 3 points partir comme ça, c'est pas un match à 6 points non plus, j'ai envie de dire. Comme il y a vu, c'était contre le Havre, il me semble, où on avait dit ça. Mais là, de pas prendre les 3 points serait vraiment pas une bonne opération pour le SCO.
Ouais, en fait, il y a eu vraiment la période compliquée là avec le SCO, avec notamment le Paris, Lyon, bon, Rennes. Mais tu joues contre Auxerre et tu perds contre Auxerre, je crois.
Ouais, tu perds 1-0 contre Auxerre.
Voilà, mais tu t'imposes face au Havre d'ailleurs, du coup.
Ouais, c'est ça.
Mais déjà, tu prends pas de but aussi, c'est important. Parce que tu t'avais pris 2 buts sur les 5 derniers matchs en moyenne, tu prenais 2 buts par match sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. On reste en dehors du match contre Bobigny en Coupe de France. D'ailleurs, le contenu contre Bobigny m'avait un peu inquiété, mais bon, tu t'en sors quand même.
Finalement,
mais comme beaucoup de clubs de Ligue 1 ont joué la Coupe de France, voilà.
Ça a été assez monotone.
Mais après, ça reste pareil, une date qui est très, les calendriers, c'est vraiment une galère, les calendriers. Je pense qu'à un moment donné, il y a tellement de compétitions européennes que tu peux plus avoir un calendrier qui est constant ou qui tient la route sans vraiment avoir des dates un peu pourries et pétées pour jouer la Coupe de France, qui est pour moi la plus belle compétition de foot en France, quoi. Mais bon, voilà, mais ça c'est un autre débat, mais
c'est important de le dire aussi et puis de le porter. Ouais. Dans tous les cas, c'est vrai que pour les petits clubs, c'est assez dommage, parce que t'as un gros club de Ligue 1 qui vient, par exemple, sur ton terrain, et derrière, t'auras pas la prestation adéquate, parce que soit les joueurs sont fatigués, soit ils en ont strictement rien à faire. Ce qui, je pense, n'est pas non plus le cas à chaque fois, mais il y a quand même ce facteur-là qui rentre en compte, et il faut le noter. C'est vrai que c'est dommage quand tu vois des prestations comme celle du SCO, comme celle de l'OL aussi, qui a gagné, mais ça a pas non plus été quelque chose de fabuleux. C'est vrai que dans ces cas-là, toi, tu perds, mais tu perds 2-1 en ayant ce sentiment d'inachevé, parce que derrière, t'as l'impression que toi, t'aurais pu faire plus.
Ouais.
Alors que c'est le club d'en face qui a fait moins que ce qu'il devrait faire. Et là, on rentre dans des débats qui sont extérieurs réellement au niveau même de la Coupe de France. Mais quand même, il faut le notifier. Et je pense que cette année, ça a été décevant pour beaucoup de clubs à ce niveau-là. Ouais.
On va dire ça aux joueurs qui vont jouer Paris, là, les joueurs d'Espaly, là, dans 10 jours, là, qui vont jouer les Parisiens, alors que les mecs vont enchaîner les matchs jusqu'à la fin janvier, parce qu'il y a 2 dates de plus en Ligue des Champions. Donc c'est dommage, c'est malheureux, et je suis pas sûr qu'ils aient des tipunes face à eux.
Bien sûr que non. Puis ça, on va continuer avec le jeu de Luis Enrique, on va mettre le ballon très très haut.
Ouais.
Et donc ils vont pas jouer, être intéressant pour eux. Après ça, c'est encore.
Mais ça, c'est un autre débat, exactement. Mais pour en revenir au SCO, oui, c'est clair qu'il va falloir gagner ce match le week-end prochain. C'est pas un match à 6 points, je te rejoins, Faustin. Parce qu'il va y avoir d'autres rencontres par la suite. Mais si tu peux enfoncer un concurrent direct, et le faire bien, ça serait une bonne chose. Ça serait une très bonne chose.
Moi, je pense que ça va être un bon indicateur pour savoir si le SCO va se maintenir ou pas, parce qu'on a des équipes quand même en face, dont Montpellier, qui, en tout cas, au début de la saison, sur le papier, n'étaient pas des équipes faites pour être aussi bas dans le classement.
Non, c'est clair.
En tout cas, sur le papier, en termes de joueurs. Sinon, dans le club, on sentait bien que il y avait quelque chose qui se passait de très négatif. Donc, c'est des équipes qui peuvent avoir des fulgurances. Et si contre le SCO, comme ça a été le cas contre l'OL, Montpellier a des fulgurances, eh ben attention pour la fin de la saison, parce que eux, ils pourraient remonter sur des matchs justement à fulgurance en faisant 2-3 matchs derrière, pas terrible, en ayant gratté des petits points comme ça. Donc voilà, donc attention, danger quand même. C'est pas un match à 6 points, hein, je suis totalement d'accord, je vous rejoins totalement là-dessus, mais on sera quand même fixé, je pense, plus ou moins sur une bataille très compliquée ou plutôt tranquille, même si je pense plutôt pour la, je penche plutôt pour la deuxième option, moi, de mon côté.
On verra ce que Montpellier proposera, donc. Mais c'est vrai que c'est une belle saison galère pour eux, mais bon, c'est un retour de bâton aussi pour leur président.
Ah bah, totalement.
Qui a bien chié sur les Français, on va dire. Voilà, je parle un peu vulgairement, mais il a bien, s'est bien moqué des gens.
Et des professionnels, et des gens au sein de notre club. C'est triste pour les supporters.
Avec son rapport à l'argent et ses déclarations sur l'abonnement. La preuve, DAZN a sorti un abonnement maintenant à moins de 10 euros par mois pour les 6 prochains mois. Donc ça montre bien qu'on était un peu dans le vrai déjà dans Génération Sport pour dire que c'était beaucoup trop cher.
Voilà. C'était prévisible.
Une petite dédicace aussi d'ailleurs à Alex qui s'était abonné avec un abonnement bien cher.
Avec engagement.
Avec engagement.
Ouais. Mais qui était quand même content parce qu'à l'époque c'était le moins cher.
Oui, mais du coup là il y a vraiment moins cher.
Mais oui, c'est dur.
Mais ouais, c'est dur pour lui. On pense à lui d'ailleurs pour l'abonnement. Qui voulait le partager avec quelqu'un et qui au final ne pouvait pas le partager. Donc
Ah oui. Là, on est vraiment sur une offre de rat.
Parce qu'il pensait avoir deux écrans et au final il n'en a qu'un seul. Donc dommage. C'est ballot.
Enfin, un petit coucou à RMC qui font la même chose.
Ouais, voilà. C'est la dure loi des abonnements télé, en tout cas en France. Mais est-ce que voilà, j'ai une question. Ça va amener notre prochain débat aussi pour la suite de l'émission. Mais là, on va revenir sur ce qui s'est passé en 2024 dans l'émission, dans la suite de l'émission après la pause musicale dans quelques instants. Mais on va se projeter déjà sur la fin de saison. On est à 2025, on peut faire des vœux, on peut faire des bonnes résolutions en 2025 comme chaque année. Est-ce que vous avez des espérances? Est-ce que vous avez quelque chose que vous espérez côté SCO ou même côté sport Angevin en règle générale? Mais là, on va rester rapidement sur le SCO et on finira sur le sport Angevin si vous voulez. Faustin.
Donc côté SCO, évidemment, on espère le maintien.
Ouais.
Je pense qu'on est tous dans la même optique, mais on espère. Moi, j'espère aussi voir. Peut-être que je te coupe un peu l'herbe sur le pied, Mathéo, mais revoir Kalumba jouer peut-être d'ici la fin de la saison. Je sais qu'on a eu des nouvelles il y a pas si longtemps. Et je crois qu'un retour peut être espéré d'ici la fin de saison et ce serait bien qu'il puisse réintégrer un peu l'équipe, qu'il puisse reprendre du ballon pour se préparer pour devenir un des meilleurs joueurs de l'effectif dans les saisons qui viennent.
Ouais.
C'est mon souhait du côté du SCO.
Ouais, c'est un futur joueur clé qui peut rapidement monter, hein, ça c'est évident. En tout cas, il en a le profil. Sinon, forcément, oui, le SCO, on souhaite bien évidemment de ne pas descendre en Ligue 2. Je pense que dans tous les cas, si le SCO descend et 17e, c'est pas une mauvaise saison pour autant. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise saison à l'heure actuelle, hein. J'en suis persuadé.
Non, c'est sûr que c'est amélioré, on va dire. C'est amélioré. Est-ce qu'elle a très mal démarré? On était vraiment très inquiet de voir le début de saison du SCO. Et au final, tu te retrouves avec une saison qui, franchement, n'est pas la plus horrible à laquelle on aurait pu penser.
Bah, très franchement, moi, je pense qu'on n'aurait pas pu non plus espérer mieux, en tout cas pour l'instant, par rapport à la saison du SCO, parce qu'en plus, tu as été chercher des points, un 3 points à Monaco, par exemple, un point à Marseille. Enfin, c'est vraiment des matchs qui... C'est pas des matchs où on a été que contre des concurrents directs et où on a gagné, ok, mais tu as l'impression juste de sauver tes fesses à chaque fois. Là, c'était pas du tout le cas. On a été chercher des points chez des gros. Ça rend la saison d'autant plus intéressante et d'autant plus aléatoire, mais c'est ça qu'on aime aussi dans le football. Donc bien évidemment, le maintien du SCO, je pense que c'est le plus important à ce niveau-là sur le local, quoique, parce qu'on a aussi plein de clubs derrière qui font des super belles saisons.
Ouais.
Et à tous les étages, à tous les échelons, moi ce que je souhaite, c'est juste que un maximum de clubs puissent bien évidemment réussir leurs objectifs et puis de manière plus large continuer à exister avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est important de le notifier quand même. Voilà, parce que le sport, c'est quand même un des facteurs, en tout cas, de bonheur, de joie qu'on procure aux Français, et c'est important que ça continue à ce niveau-là.
Oh, je pense qu'on va en reparler un peu dans la suite de la demi-heure. Après, je pense qu'on va reparler de tout ce qui s'est passé en 2024. Et je pense que le sport a fait pas mal de bien aux Français. Ouais, effectivement.
Ah bah c'est évident.
Voilà. Effectivement.
Cet été surtout.
Surtout cet été, exactement. Non, pour le SCO, et après on parlera peut-être de basket aussi, de savoir ce qu'on attend et ce qu'on espère, en tout cas pour 2025. Mais pour le SCO, j'espère vraiment qu'ils vont se maintenir, parce que derrière, en U19, en U17, il y a matière, il y a quelque chose. J'ai pas tendance à m'enflammer pour ce club à la base, mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être un réaménagement à faire aussi, tout doucement aussi, au niveau d'amener des joueurs tranquillement vers le groupe pro, de pas trop non plus les mettre en danger ou les lancer. Voilà, on a lancé Shérif au début de la saison et c'est vrai que c'était peut-être un poil trop tôt. Mais là, en plus, il est blessé, donc c'est dommage pour lui. Mais les amener tout doucement, les programmer à exploser d'ici un ou deux ans. Et voilà, après, t'as une formation, t'as la moyen d'avoir aussi des très bons joueurs dans ton secteur, enfin dans tout le secteur angevin et même dans le département, t'as des très bons clubs formateurs aussi. Donc voilà, faut s'ouvrir aussi vers ces clubs-là et de faire en sorte que ça soit une référence et une envie d'aller jouer au SCO et de porter le maillot noir et blanc, en tout cas dans les années à venir. Mais c'est vrai que avoir un club de foot en Ligue 1 à Angers et dans le département, c'est important, je pense, bien aussi sûr. D'un point de vue rayonnement français de la ville. Voilà, je pense qu'avoir le club de foot en première division, c'est important.
Et puis dans les autres clubs, les autres sports aussi, hein, forcément.
Oui, bien sûr.
Qu'ils soient satellites ou juste qu'ils portent l'appellation SCO, hein, c'est hyper important d'avoir ce genre de club. Moi, je me rappellerai toujours cette anecdote où des proches à moi étaient partis à Marseille, avaient dit « on est d'Angers » et la première réaction, c'était « oh, le SCO ».
Ouais.
Donc c'est quand même assez révélateur justement de ces sujets-là. Et on sait que ça peut être un levier financier aussi assez important, non pas le club du SCO, mais l'appellation, ce que ça rapporte, ce que ça peut rapporter au club, la confiance que ça peut avoir par rapport aux investisseurs. Et c'est toujours intéressant justement de pouvoir développer les clubs. Donc oui, c'est hyper important d'avoir un club en Ligue 1.
La dénomination SCO, c'est vrai que ça ramène tout de suite à la ville d'Angers, le mot SCO en tout cas. Beaucouzé aussi, très très bon club à suivre aussi au niveau du football, mais il y en a tant d'autres aussi dans le département du Maine-et-Loire. En basket, quelles sont nos attentes pour 2025 Faustin?
Si je prends club par club, le AB, je leur souhaite déjà de gagner plus de matchs, de faire un peu tourner la roue en leur faveur, parce que justement tous ces matchs perdus dans le quatrième quart-temps, ça peut être un peu dû à de la malchance aussi, des fois quand tu le perds que d'un point, deux, trois points. Dans ces cas-là, tu peux t'en prendre pas qu'à toi-même justement. Tu peux dire, à un moment il nous met un shoot de fou, bon, on peut rien faire. Mais du coup, je leur souhaite que ça change un peu, qu'ils arrivent à gérer mieux ces fins de match, à les remporter, à les assurer. Peut-être pas aller chercher un top 7, ça va être compliqué franchement. Mais monter dans le classement, reprendre des victoires et du plaisir sur le terrain.
Et se maintenir aussi.
Évidemment, se maintenir. C'est essentiel. Ouais. Descendre deux divisions en deux ans, ça ferait très mal pour le club et pour le joueur.
Au moral aussi, c'est clair. Ça serait pas forcément évident pour se relever là-dessus. Pour l'UFAB?
Pour l'UFAB, moi, je leur souhaite d'avoir, au vu de la saison, là, l'avantage du terrain en play-off.
Ouais.
Parce que maintenant, les play-offs, je les considère pas comme acquis non plus, mais elles sont vraiment bien parties, quoi.
Faudra un sacré tremblement de terre pour qu'elles n'y aillent pas.
C'est ça. Après, sixième, t'es pas non plus si loin de redescendre. Oui, voilà. Mais sixième, t'as encore l'avantage du terrain, il me semble. Ou alors c'est cinquième. Non, je crois que c'est cinquième, tu l'as, l'avantage du terrain. Mais du coup, je leur souhaite d'avoir cet avantage du terrain qu'elles ont jamais encore eu. Et ça pourrait être une première pour elles.
Et la saison n'est pas finie, hein. La saison régulière. Donc, il y a encore le temps d'être dans les cinq premiers pour l'UFAB. On va quand même dire un mot pour Cholet Basket quand même.
Je vais pareil, continuer comme ça, arracher un top 3. Va falloir gazer dans cette deuxième partie de saison. On le sait, Cholet, souvent, ils font mi-figue, mi-raisin un peu leur saison avec une bonne partie et une deuxième partie un peu moins bonne. Là, j'espère que ce sera pas le cas et qu'ils vont réussir à gérer cette deuxième partie de saison et à se glisser dans le top 3.
Bon, voilà, on a fait un peu le tour des deux sports, on va dire, de deux disciplines présentes sur Angers. On parlera du reste des disciplines style handball ou même rugby avec Cédric et Amaury, les Ducs aussi forcément, notre spécialiste Duc d'Angers aussi, qui est Cédric, qui va souvent voir les rencontres. Et on en parlera avec lui. En plus, ils ont gagné le week-end dernier contre Anglet 5-1. Ils sont toujours deuxième de la Ligue Magnus, mais ils sont loin devant le troisième, donc ils seront forcément dans les deux premiers. Ils auront l'avantage du terrain, pas forcément jusqu'en finale, mais en tout cas, s'ils vont très loin, les Ducs d'Angers. Mais c'est une bonne chose dans cette Ligue Magnus, en tout cas, et là aussi, ça fait du bien à la ville d'Angers. On va faire une petite pause musicale, on va s'écouter un rappeur allemand que j'ai découvert pendant les vacances. Voilà, il s'appelle Jazik. La chanson,
Export, c'est bien.
Ouais, je sais pas. On va dire que c'est une plateforme musicale qui est verte et qui a eu une série sur Netflix il y a pas si longtemps que ça, qui m'a à un moment donné conseillé, qui m'a bifurqué là-dessus. Et donc voilà, Jazik avec Sissi, et c'est tout de suite sur Radio G.
Mmh. Siehst du so in love? Sie hat Feelings für ein G und sie kann sie nicht verstecken. Heute Nacht ist sie full love drugs. Sie nimmt viel zu viel in der Hoffnung, dass sie mich vergessen kann. Doch hat nicht geklappt. Ihr Herz versagt, Schmerzen, obwohl sie Tabletten nahm. Ruf mich heute an, schon zum sechsten Mal. Und oh, ich brauch dich heute Nacht bei mir, babe. Schreibt sie mir überall und nimm meinen Namen im Mund, weil sie sich fühlt, yeah. Weil ich sie überall block, sie ist überall Bots von ihr, mein DMs. Weil sie immer weitermacht, nenn ich sie geisteskrank, sie nennt's Liebe. In L.O.V.E., yeah. Sie ist so in love, L.O.V.E. Und sie schreibt mir, nice, come and see me. Wenn ich ruf, macht sie ASAP so wie Riri, yeah. Sie will kein Gucci, sie will CC, yeah. Sie ist so in love, L.O.V.E. Und sie schreibt mir, nice, come and see me. Es ist so wie Riri, yeah. Sie will kein Gucci, sie will CC. Sie will Love, sie will CC. Nur weil wir, denkt sie wirklich, ich lieb sie. Doch die Zeit hat sich geändert wie ihr Piercing. Sie kann nur Englisch, sie sagt Jay-Z, come and meet me. Doch ich sag you no, no, no. Don't call me on my phone. Never ever, never. Ich brauch dich heute Nacht bei mir, babe. Schreibt sie mir überall und nimm meinen Namen im Mund, weil sie sich fühlt, yeah. Weil ich sie überall block, sie ist überall Bots von ihr, mein DMs. Weil sie immer weitermacht, nenn ich sie geisteskrank, sie nennt's Liebe. In L.O.V., yeah. Sie ist so in love, L.O.V.E. Und sie schreibt mir, nice, come and see me. Wenn ich ruf, macht sie ASAP so wie Riri, yeah. Sie will kein Gucci, sie will CC, yeah. Sie ist so in love, L.O.V.E. Und sie schreibt mir, nice, come and see me. Macht sie ASAP so wie Riri, yeah. Sie will kein Gucci, sie will CC, yeah.
Jazik, CC sur Radio G. On est toujours en direct sur le 101.5. L'occasion pour moi de saluer tout le collège Jeanne d'Arc de Saint-Sylvain d'Anjou. C'est la reprise. Ils sont à l'écoute. En tout cas, on espère. C'est ce qu'ils me disent à chaque fois. On a écouté, on a écouté. Maintenant, il faut voir les stats, hein. Je veux voir les stats à la fin de la...
Ils peuvent parler sur le chat s'ils veulent.
Exactement, je sais pas. On verra si ils enverront des messages ou pas, mais en tout cas, ils vont me dire, ah, on a écouté hier. Ils sont capables de me sortir tous les noms des personnes de l'équipe, mais au final, quand je pose vraiment les questions,
il y a personne.
Voilà. Bon allez,
étrange,
exactement. On est ensemble donc pour jusqu'à 21h maintenant. On va évoquer ce qui s'est passé en 2024. On va faire une petite rétrospective de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. Mais voilà, je pense que beaucoup de choses. On va quand même énormément parler de positif parce que c'est une année 2024 de sport. Incroyable qu'on a vécu aussi sur les antennes de Radio G sur le 101.5 avec des émissions spéciales tout l'été notamment sur et d'ailleurs on a jamais quasiment quitté l'antenne donc de l'été parce qu'on était présente
un peu au mois d'août quand même
un tout petit peu c'est vrai qu'au mois d'août ouais, exactement ouais. Début juillet peut-être aussi
non je crois
on était présent ouais, on était présent ouais, c'est après les jeux peut-être ouais, il y a une petite pause après les jeux exactement mais bon il fallait la prendre quand même
voilà.
On a très rapidement pris, je crois qu'on a peut-être raté un mardi ou deux sur les deux ouais. mois de vacances. Donc vraiment, donc sur la Radio G, on était encore présents, la Génération Sport et le sport sur Angers. Faustin, est-ce que tu as du positif à tirer sur cette année 2024 en sport?
Je vais commencer par ce qui est le plus simple. Ouais. Je vais parler des JO. Hein,
oui, bien sûr.
L'événement majeur que tout le monde a suivi, que toute la France a suivi, que tout le monde a suivi. Voir ça en France, de la cérémonie d'ouverture à la cérémonie de clôture, c'était une réussite. On s'est régalé tout l'été devant nos postes de télévision à regarder des victoires françaises, des podiums, des médailles, des belles performances, même sans médailles parfois, certaines désillusions. Mais dans tous les cas, on s'est régalé avec. C'était très bien réalisé. Même toutes les critiques qui avaient été faites en amont ont été un peu démenties. Ouais. Que ce soit sur la cérémonie d'ouverture, sur le triathlon dans la Seine, toutes ces choses-là, bah ça s'est très bien passé au final et on a eu une grande fête de sport qui a régalé le monde entier.
Mathéo.
Bah forcément. Alors en positif, on a les JO. Ça, c'est évident aussi. Je vais pas reprendre tout ce que t'as dit, Faustin, mais c'est vrai que ça a été une belle fête et je pense que c'est ce dont on avait tous besoin à ce niveau-là. Et on a vu tellement de personnes s'intéresser au sport alors qu'ils se déconnectaient tout simplement du sport dû à plein de choses, hein, forcément. Mais voilà, merci à tous les sportifs des JO de nous avoir autant fait voyager en sport. Non, moi de mon côté, forcément, le positif, il est attiré au niveau, parce que voilà, il faut le dire, de l'Olympique Lyonnais. De la folle remontée géniale, vraiment vrai. Une année exceptionnelle. Je pense que depuis que je supporte ce club, ça a jamais été aussi fort. Et je pense que voilà, partout dans l'Hexagone, il y a des personnes qui se sont senties proches de cette remontée sans être fans du tout de l'OL. Alors je parle pas non plus des supporters marseillais, parisiens qui eux ont une certaine distance, mais c'est vrai que ça faisait, je pense, quand même chaud au cœur de voir qu'un club comme ça, avec les galères, un petit peu à l'image d'un Lille il y a quelques années, ouais, avec les galères qu'a connu le club, et ben arrive à remonter la pente et de manière aussi magique finalement, parce que t'as quand même eu des matchs contre Brest, contre Lille où tu t'en sors à la dernière minute. Ça a été la page sport qui a dominé une grande partie de mon année, parce que à la fin t'es européen et en janvier t'étais 18 ou 17e. Enfin, c'était assez fou. Donc à ce niveau-là, ouais. Et puis sinon, positif aussi, parce que moi ça me fait plaisir forcément. On va parler de nos amis ivoiriens, mais de la CAN qui a été une belle réussite aussi à ce niveau-là.
C'est vrai, t'as raison.
Franchement, la Côte d'Ivoire, c'est vrai que ça a été une grosse surprise. Et là aussi, c'est des folles remontées qui font rentrer ces événements-là dans la légende, tout simplement, du sport et des trophées. Qui dans lesquels ils font partie, hein, tout simplement.
Avec un sélectionneur qu'on enlève.
Bah oui, exactement.
Et qui est coach de Montpellier. Et
voilà. Étrange, encore une fois.
Coïncidence, je ne crois pas.
Beaucoup de respect pour Jean-Louis Gasset quand même,
bien sûr,
ça a été un grand coach, mais c'est vrai que il doit passer une très mauvaise année, Jean-Louis Gasset.
Ouais, l'année à cheval, là, c'est clair qu'elle est pas terrible.
Ça a été compliqué, et puis on a eu Marseille entre les deux.
Ouais. J'espère pour lui qu'il a regardé les JO.
J'espère, ouais, qu'il a pris un peu de plaisir. Ta folle remontée lyonnaise qui, a dû tirer une balle dans le pied aussi au Racing Club de Lens, parce que je pense que si Lens est dans cette galère-là maintenant,
je me demandais
c'est un peu dû aussi.
Comme ça,
non, mais ça, c'est bizarre, mais clairement, c'est un peu dû à ça aussi. Je pense que ça joue à une place près. Et du coup, en fait, Lyon était quasiment automatiquement qualifié. Ils ont pas fait de tour de barrage en plus.
Pas du tout, directement qualifié. Donc, vous avez fait des barrages.
Ben oui. Mais le problème, c'est que tu passes devant. T'as pas ce tour de barrage parce que comme Paris gagne la Coupe de France, t'es automatiquement qualifié. Et t'as plus d'argent aussi qui arrive. T'es en Europa League, t'es pas en conférence. Je pense clairement qu'il y a un silence et clairement européen directement. Il n'y a pas tout ce remue-ménage et tous ces problèmes-là actuels. Mais bon, après, on refera. Ça, c'est refaire le monde aussi dans d'autres émissions. Mais voilà.
Non, mais c'est sûr qu'après, tout le monde la convoite, hein, cette place.
Exactement.
C'est évident. Mais la Conference League, vous auriez pu...
oui, on aurait largement pu, exactement. Ça, c'est autre chose. Mais ça fait partie de mes douleurs 2020, de 2024.
Je comprends.
Non, mais après, c'est vrai que tu as raison, Faustin. Et je te rejoins aussi, Mathéo, pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que ça a été incroyable de vivre ça en France. Alors même qu'on soit sur place, Clément était sur place, qui était chroniqueur et animateur de l'émission aussi pendant l'année dernière. Il a été sur place et on se souvient du plaisir qu'il a eu pouvoir voir les JO en France, même ceux qui n'y étaient pas. On n'y était pas, on n'a pas été sur place, tu vois. On n'a pas été voir des disciplines, mais on était chez nous et on regardait. On était ici à la commenter. Et je pense qu'une fois dans notre vie, avoir cette chance-là de pouvoir voir ça en direct dans notre pays et sans décalage horaire, sans avoir à te lever en pleine nuit pour voir ce que t'as envie de voir, et ben franchement, je trouve qu'on a eu, on a été énormément chanceux. Et puis c'est l'occasion aussi de t'enflammer sur des disciplines que tu vois pas d'habitude. Et tu vois aussi que ces disciplines-là maintenant, elles perdurent un peu. Tu vois ce que fait RMC avec le tennis de table, c'est bon. Après, il y a les frères Lebrun qui sont une locomotive, mais c'est important d'avoir ces locomotives-là. Donc
ça vous déporte aussi.
Et ça, c'est un vrai plaisir de voir que le sport, et c'est ce qu'on essaye de faire nous à notre échelle, ouvrir les œillères, avoir donné de la parole à des clubs qui n'ont pas forcément, qui peuvent pas forcément l'avoir, et qui viennent parler de leur club, leur discipline, leur histoire tous les 15 jours quand on le fait ici, mais bah ils ont pu le faire aussi grâce aux Jeux Olympiques avec les performances de certains ou certaines. Donc s'il y a des sportifs que vous voulez retenir de ces Jeux Olympiques, Faustin,
il y en a beaucoup,
français ou pas français, hein.
Ouais, français ou pas français, J'ai plus leur nom, mais pour moi c'est les trois BMXistes, je sais pas comment on appelle ça, mais
le triplet du BMX.
Le triplet du BMX, c'est, je pense que quand là il y a pas longtemps, il y a eu pas mal d'émissions sur qui sont revenues sur tout ce qui s'est passé dans les JO, et vraiment cette image-là de la course de BMX des trois qui gagnent, qui se retournent pour voir si leurs potes ils ont gagné. Mais je pense que c'est mon image préférée des JO. Ouais. Quoi. C'est donc, mon moment préféré des JO, on va dire. C'est les ça. Athlètes que je retiens, c'est eux trois.
Donc c'est Sylvain André, Joris Daudet et Romain Mailleux. Voilà. Donc c'est les trois Français qui ont fini aux trois premières places. C'est Joris Daudet qui a remporté la course aux Jeux Olympiques. Immense carrière en BMX. Moi je me souviens l'avoir vu il y a quelques années. Donc quand il avait, dans le BMX, quand le BMX arrivait aux JO, et c'était vraiment très intéressant de voir enfin se concrétiser son rêve olympique, parce que c'est des rêves, ces mecs-là aussi, c'est des hommes et des femmes qui courent après ça depuis tant d'années, parce que c'est leur plus grand, c'est leur graal, c'est leur plus grande discipline à elles et à eux aussi, donc vraiment, Mathéo, est-ce que tu as un des sportifs ou des sportives à...
Bah, forcément, je pense qu'on gardera tous le même en tête, c'est Longmarchand.
Ouais.
Qui a fait vraiment, qui a redonné le sourire. Tout à l'heure, je parlais de bonheur. C'est exactement ça, en fait. C'est ce truc de ta tante qui ne suit pas le sport et au courant des médailles de Léon Marchand.
Ouais.
Et c'est magnifique à ce niveau-là. Mais moi, celui qui m'a... Mais peut-être parce que ça a une... Voilà, ça a un impact différent aujourd'hui. Ça a une résonance différente. C'est ça le mot que je cherchais. C'est Kaoli Vast.
Ouais.
Kaoli Vast, donc, en surf, chez lui... Outre-mer, ce qui aujourd'hui a forcément
une résonance qui
est autre, bien évidemment. Donc c'est peut-être là aussi une des plus belles images, parce que derrière le sport il y a des êtres humains, parce que derrière le sport il y a aussi, derrière l'être humain qui porte ce sport, il y a d'autres êtres humains qui portent cet être humain. Enfin voilà, c'est une pyramide si vous voulez. Et je trouve ça génial. Pour moi c'est aussi ces histoires qui rendent des moments beaucoup plus uniques. Et là pour moi c'en est un.
En parlant des outre-mer, t'as raison de parler de ça, mais moi ce que je retiens, et c'est même pas une image d'une victoire. Enfin si, quand même, il y a un peu de la victoire aussi en lui, mais c'est surtout l'allumage de la flamme. C'est de voir une femme et un homme d'outre-mer. Et franchement, pour en avoir parlé pendant les vacances avec un membre de ma famille qui était parti en outre-mer pendant les vacances. La situation en Guadeloupe est pas non plus la plus belle et la plus top.
C'est délétère partout.
Voilà, et on a des territoires d'outre-mer qui sont laissés à l'abandon, on va dire, on va se le dire comme ça, et où c'est pas forcément évident, notamment en plus avec Mayotte, avec tout ce qui se passe actuellement. Mais de voir voilà Teddy Riner et Marie-José Pérec, moi je l'avoue, hein, j'ai lâché une larme ce jour-là, parce que moi, Marie-Jo, c'est l'athlète olympique pour moi par excellence française. S'il y avait quelqu'un qui devait allumer la flamme, s'il n'y en avait qu'une seule, même s'il y avait eu qu'une femme ou un homme, il fallait choisir qu'une seule personne, ça devait être elle. Elle était accompagnée du plus grand athlète français, je vais pas dire de tous les temps, parce que bon, il y a quand même Fourcade, après Estanguet, a quand même énormément de médailles, mais pour moi, si Teddy Riner l'est aussi, si on doit choisir un homme qui a dominé sa discipline et qui va y aller, hein, à Los Angeles, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir, il va y aller pour sa dernière Olympiade, il aura 39 piges, mais
tant mieux, hein.
Mais il va y aller quand même, tu vois, mais
c'est grâce à des gens comme Teddy Riner qu'aujourd'hui des sports comme le judo, qui sont autant pratiqués en France, ont pu justement se pérenniser dans le temps aussi, je pense, parce qu'on a eu beaucoup de sports comme ça, même je pense à des sports automobiles, mais Sébastien Loeb pour le rallye par exemple a amené des mecs derrière comme Sébastien Ogier, et il y a cette pérennité qui s'est installée, et c'est hyper intéressant à ce niveau-là en France, justement d'avoir ce relais de génération, et pour ça merci à ces gens-là.
Et pourtant t'as eu des Thierry Ray dans les années 70-80, t'as eu David Douillet, donc en termes de tête d'affiche, t'as eu Jamel Bourras, mais t'en as eu tellement en fait en judo, mais Teddy Riner et a tout cassé, et tu le vois en plus dans, je sais pas, l'engouement du judo pendant les Jeux, ça a été incroyable. On ne voulait rater aucun combat du moins de la française ou du français. Je trouve que ce format, en plus d'avoir un seul athlète par pays, t'oblige à, en fait, t'es là à supporter par jour, en plus chaque catégorie. Donc tu vois, c'est vraiment, t'as deux Français par jour et tu te perds pas dans une immensité d'athlètes en lice. Enfin, je trouve ça incroyable. T'es sur 10 jours de compétition, parce que ça s'étire un peu avec le format par équipe. Mais c'est vrai que moi j'ai senti un vide et un manque après le judo là.
Bien sûr.
T'avais plus ces combats par jour. Alors le taekwondo peut essayer de faire ce qu'il peut, mais tu vois, mais t'avais pas ce, t'as pas encore ce côté tête d'affiche française comme Pascal Gentil a été par le passé ou tant d'autres qui m'a fait combler ce manque. Voilà.
On a eu ce sommet en plus tout à la fin qui était justement le par équipe et là pour le coup tu revois tous les gens.
Ouais,
la roulette, c'était fabuleux. Puis là, pour le coup, il y a vraiment eu les événements qui sont venus pour rendre cette rencontre encore plus magnifique.
Les Japonais pourront nous dire que c'est truqué, mais
non. Nous, on dira que non.
Mais nous, on dira que non. C'est
on
clair.
On martèlera le nom.
Mais non, mais c'est vrai que on espérait tous que ça soit Teddy.
Bah oui.
Non, en plus, on dit Teddy, mais en fait, les mecs, ces athlètes-là sont tellement rentrés dans nos cœurs qu'en fait, on a l'impression que c'est nos potes et que qu'on les appelle par leur prénom.
Génial avec le sport, toujours.
C'est ça, exactement.
C'est de la proximité, peu importe où.
C'est ça, et donc de voir ça, de voir cette roulette, tu te dis allez, faut que ça tombe sur lui, et ça tombe sur lui, et toi t'es dans ton salon, t'es en train de hurler en disant c'est bon, tu vois, et on l'a, et c'est vraiment un souvenir impérissable, je pense que je sais pas si on aura l'occasion de revivre des Jeux Olympiques d'été, on va avoir les Jeux Olympiques d'hiver dans quelques années, mais d'été en France quoi. De notre vivant, ça risque d'être compliqué quand même.
C'est tous les 100 ans.
Il a fallu attendre 100 ans, ouais, c'est clair. Après, peut-être qu'il y aura une autre ville française qui voudra se porter candidate. Mais,
Laquelle?
Ouais, laquelle?
Angers.
Ah bah, nous, on est ouvert.
Angers, Angers 2000, je sais pas, faudrait qu'on trouve un slogan, Angers 2048, peut-être, allez, voilà, comme
Radio
ça.
Radio G qui rediffuse toutes les épreuves en direct.
C'est ça, exactement. C'est magnifique. Avec Faustin au 3-3 à basket, ça, c'est ça? Il serait comme un fou, là. En 2048, t'as truqué l'âge, toi?
2048, c'est dans 23 ans, j'aurai donc 42 ans.
Bah, ça va, 42 ans pour commenter du basket 3-3. Ça sera bien?
Bah, parfait.
Ah, parfait. Bon, bah, écoute.
Le rendez-vous est pris.
On prend acte, exactement. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous ont égayé cette année 2024?
En positif ou en négatif?
Bah, vas-y. En positif ou négatif?
En positif, la montée du SCO.
La montée du SCO. T'étais sur place en plus.
J'étais sur place. Je me suis fait une grosse blessure à ce moment-là.
C'est vrai.
Mais c'est pas un souci. Je suis quand même après allé sur le terrain avec un genou en vrac. Et j'ai kiffé mon moment. J'ai kiffé mon match. Bon, le match, c'était pas le meilleur de la saison, mais c'est pas grave. De toute façon, les moments où il y a eu le plus de bruit, c'est quand Saint-Étienne prenait des buts. C'était vraiment un moment de fou. J'avais pas vécu la première montée. Enfin, je l'avais vécu, mais à la télé, c'était pas pareil. Là, être dans le stade avec ses potes, courir pour aller sur le terrain, c'est tout. Enfin, le stade rempli comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais rarement vu à Angers, et c'était juste magnifique. Et ça a clôturé cette superbe saison qu'on n'attendait pas non plus après la saison catastrophique qu'il y avait eu avant. Donc ouais, c'était un événement très marquant pour moi aussi cette saison.
Mathéo.
Alors moi du coup j'ai noté parce que j'ai fait une petite fiche quand même.
T'as bien raison.
Pogacar, virgule, juste. C'est ça, c'est le sujet parce que c'était fou ce qu'il nous a fait cette année Pogacar.
Ouais, c'est vrai.
Très très fort, très très fort. On verra s'il apportera de la continuité à ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce que c'est lui le grand favori pour le prochain Tour de France? Ça semble assez évident.
Ouais.
Après on peut pas se projeter 6 mois en avance parce que blessure,
oui,
parce que mais. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il est et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une aussi belle année, une année aussi complète dans le cyclisme international. Je sais pas ce que t'en penses, Flo, mais c'est assez fort.
Bah, il aurait pu pousser le bouchon un peu plus loin. Hein. C'est sûr que il fait pas les Jeux, il fait pas le Tour d'Espagne derrière. Il voulait se concentrer sur le championnat du monde. Il l'a eu. Franchement, gagner Tour d'Italie, Tour de France, championnat du monde. Tu rajoutes à ça quelques classiques aussi au passage, parce qu'en fait quasiment à chaque course qu'il a disputé, il a gagné. Donc c'est lui le coureur de l'année 2024, c'est sûr. Maintenant, voir ce que ça va donner sur cette année, mais je ne vois pas comment ça peut lui échapper vraiment, parce qu'il va faire le Tour de France. Je pense qu'il partira peut-être plus sur le Tour d'Espagne. À voir, peut-être, on ne sait jamais. Mais pendant un temps, j'ai cru qu'il allait faire le 3. Ce qui n'a jamais été fait, hein, de gagner les trois, Italie, France, Espagne, dans la même année. J'ai cru qu'il allait le faire.
À 25 ans.
Ouais, non, mais.
Faut le dire, quand même.
Ouais, tu vois, on appelait Eddy Merckx le cannibale. Je pense qu'il va pas être loin de ce surnom-là dans quelques années, d'ici 2-3 ans. Parce que il est vraiment injouable. Maintenant, je veux voir aussi si d'autres coureurs, d'autres cyclistes vont pouvoir essayer d'aller le chercher. Mais ça va être très compliqué, en tout cas. C'est une très, très belle année pour lui en 2024.
On verra ça, et puis justement, ça va être une belle année pour le cyclisme aussi, parce que justement, je pense qu'on va savoir à quoi va ressembler le cyclisme dans les prochaines années, à partir de justement ce tournant, peut-être que marque cette année pour Pogacar, On sait qu'on a généralement des phases de 2-3 ans, la même personne qui gagne le Tour de France. Là, il arrive à sa troisième année, s'il le fait encore. Derrière, est-ce que c'est pas la porte ouverte si on n'a pas un jeune qui pousse à quelque chose de
il est encore jeune
plus fou quoi.
Il est encore jeune donc
ah, il faut une nouvelle tête pour le
ouais, juger.
Je pense pas que Remco et Evenepoel puissent par exemple
Non. Remco il pourra pas aller chercher et Vingegaard c'est pareil, il va commencer à prendre un peu plus de bouteilles même s'il est pas si vieux que ça mais
il a 27 ans je crois.
Mais le problème c'est qu'il a quand même une grave blessure aussi. Donc maintenant faut voir comment il va revenir aussi dans les années à venir donc enfin, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, on verra aussi quel sera son état de forme. Donc,
et puis voir comment le Tour de France de cette année l'a marqué, Vingegaard aussi, parce qu'il s'est fait ratatiner. Plus à chaque fois, mais
je pense qu'il y allait pas. Parce que là, il a donné une interview il y a quelques semaines à un média dans son pays, là, au Danemark. Le mec, il s'est vu mourir autour du Pays Basque. Donc, du coup, il s'est quand même, tu te dis, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Sur le vélo, donc je pense que ça, même s'il a voulu repartir directement, il a attendu que sa femme arrive à son chevet, voilà, il s'est dit bon, je repars parce que je sais faire que ça, c'est ma passion et tout. Je pense que c'était un miracle qu'il soit sur le Tour de France, donc après qu'il finisse, qu'il arrive à le finir déjà pour moi aussi, c'est un miracle. Donc
on verra bien. Plaisir et de l'abnégation.
Exactement, c'est ça. En positif, moi je vais vous donner aussi un truc qui va peut-être forcément parler à Faustin, mais c'est le titre rookie de Victor Wembanyama.
Ouais.
Sur l'année 2024, c'est quelque chose. Je pense qu'on mesure pas aussi la. Pas encore, peut-être pas encore, mais le grand public ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir ce joueur-là qui porte la nationalité française.
Ouais,
c'est tout bonnement incroyable. Même ce qu'il. Après, en off, on a parlé un peu de nos vacances tout à l'heure, pour ne rien cacher à nos auditeurs. On se disait j'ai lâché un peu sur le sport. S'il y a bien un sport que j'ai pas lâché, c'est le basket.
Ah, le Christmas Game, le 25 décembre ou pas, je suis dans la télé.
Exactement, c'est ça. Et mais pas seulement le Christmas Game, parce que quand tu vois le mois de décembre qu'il fait, c'est tout bonnement incroyable. On parle d'un mec qui était donc mine de rien pour moi top 3 MVP là sur le mois de décembre. Hein.
Ouais,
28,5 points de moyenne, 10 rebonds par match, 5 comptes par match. 4 passes de moyenne, bon bah voilà, ça pose un homme. Il serait américain, je pense qu'il serait MVP du mois. Enfin, et après il y a Shai qui est là, mais quand même, si tu portes la nationalité américaine, je pense qu'il serait content de le mettre en avant quand même.
Il est quand même vachement hype, hein. Malgré qu'il soit français.
Il est déjà hypé déjà, c'est vrai.
Il est déjà au top.
Mais voilà, on mesure pas assez ce que fait ce joueur là. Il a son âge, hein. Il n'a que 20 ans et il va avoir 20. Il a eu 20 ans
récemment.
Il a eu 20 ans et en plus il a eu 20 ans quasiment sur ses 100 premiers matchs de NBA et il est en avance sur tout le monde.
Ouais, c'est ça.
Il est en avance sur LeBron James, sur plein de trucs, sur Stephen Curry, enfin sur toutes les légendes de ce sport vivantes quoi. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Je sais pas ce que t'en penses toi Faustin, mais
c'est que dans tous les domaines, il est dominant.
Ouais.
C'était ça, il a plus de 3 points que Dunk alors qu'il fait 2m24. Il Dunk les bras levés quoi le mec, mais il met quand même plus de 3 points et ouais, c'est un talent générationnel qu'on voit quasiment jamais. Il a de quoi devenir le meilleur joueur de tous les temps de basketball. Faut mettre des mots là-dessus et ouais, c'est juste génial de pouvoir avoir ça.
Ouais, c'est immense. Immense d'avoir ce joueur-là. Il est immense. D'un point de vue de la taille, c'est sûr, mais d'un point de vue du talent aussi. Et vraiment, je suis vraiment heureux d'avoir, franchement, tous les matins, je me lève, dès qu'il y a un match de lui, je me lève pour voir au moins. Si je peux pas voir le match, au moins voir le résumé, parce que il y a toujours un truc, il y a toujours un, quand il a joué contre Jokic, il a joué 2 matchs à la suite, il y en a au moins un où il l'éteint sur la dernière action, et il fait gagner son équipe. Le lendemain, il est un peu moins fort au shoot, mais en défense, il est quand même là, il contre. Enfin, là, contre Chicago, il y a 2 jours, enfin, la nuit dernière, je crois que c'était la nuit dernière, il fait 8 comptes dans un match. Enfin, ce qu'il faut mesurer un peu l'impact de ce mec-là. Alors, qui est en plus dans la ligue nord-américaine déjà au sommet quoi, donc voilà, ça c'était pour 2024 d'avoir ce joueur là mais en plus il était au JO donc voilà, en plus il a, et je pense que ce qui s'est passé au JO l'a un peu marqué, la défaite en finale, et je pense que ça lui a fait passer un cap aussi.
À 19 ans il pleure parce qu'il perd en finale des JO contre la meilleure équipe des États-Unis qu'on ait jamais vue.
Ouais,
voilà, ça prouve la mentalité du bonhomme.
C'est ça. Mathéo, est-ce que tu as autre chose à rajouter?
On va rester dans le positif pour l'instant avant de passer, parce que moi j'ai quand même des choses négatives que j'ai à donner.
On va peut-être dans le négatif parce qu'il reste plus que 4 minutes et j'ai envie de t'entendre sur le négatif quand même.
Deux choses en positif, ah, juste que j'argumente pas trop. N'Gapet à Poitiers, le retour d'N'Gapet à Poitiers.
C'est vrai, même s'il est reparti après. C'est vrai.
Ouais, mais qui fait quand même quintupler les ventes. Enfin, c'est énorme, dernier match devant 5000 personnes à Poitiers. Enfin bref, c'était assez fou. Et puis pour finir, Paul Sexas aussi, qui a été champion du monde junior du contre-la-montre. Donc voilà, ça c'était pour mes sujets très positifs, mes attentes pour l'année prochaine. Et puis là, on va aller. Alors j'ai deux sujets négatifs. Il y en a un qui est plus national que l'autre.
Ouais.
Toujours lié au football, forcément. Je vais parler de la descente de Bordeaux en N2, donc la perte du statut professionnel pour un club qui a gagné la Ligue 1 il y a seulement 15 ans. Hein. Donc c'est assez fou. C'est un peu le synonyme aussi de la destruction des clubs de nos clubs français historiques par de riches investisseurs qui viennent et qui font n'importe quoi.
Ça fait mal.
Et ça, c'est peut-être aussi un sommet de ridicule de l'année 2024, parce que on a un club, comme je l'ai déjà dit, qui est historique, une vraie base de supporters, et c'est vrai que c'est toujours étonnant, voire choquant, de voir des clubs derrière lesquels il y a autant d'attentes, autant d'histoires, autant de choses qui gravitent autour, qui peuvent faire en sorte que des clubs comme Parme, on a eu en Italie, qui descendent et qui remontent derrière parce que il y a ce soutien des supporters. Là, c'est pas le cas. Et même en National 2, Gérard Lopez veut toujours pas lâcher le club. Alors là, on a des rumeurs, Oliver Kahn, tout ça. Est-ce que ça se concrétisera? Bon, il a l'air de bien aimer son bébé quand même, Gérard Lopez, enfin son bébé, son bijou, on va dire, son collier à la limite, Killorn. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça, de la descente de Bordeaux et cet événement marquant qui prouve que ça y est, on commence à voir certains des gros clubs français et des gros clubs mondiaux couler.
Ouais, maintenant malheureusement en France, il va falloir faire attention. Hein. T'as des clubs, bon, ton club aussi, hein, faut qu'il fasse attention à ce qui peut se passer. Le mien aussi,
mais le mien,
ils sont en train de vendre des joueurs pour le sauver. Donc moi, je suis moins inquiet.
Et merci au scout qui a mis 100 000 balles sur Kouzanov.
Exactement. Si tu le vends 40 000, ça, 40 millions, je veux dire, ça serait très bien. Mais tu vends Samba, tu vas vendre aussi. Tu vas vendre aussi Danso, donc je pense qu'il y a moins de problèmes là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que faut faire attention à ces clubs français. Mais tout ça part d'une seule personne pour moi. Enfin, pas d'une seule personne. C'est d'une gestion en général dans le football.
Oui.
Et je vous enverrai un petit lien et peut-être qu'on la mettra sur les réseaux sociaux. Faudra que je retrouve. C'était sur Instagram, mais on pourra peut-être la passer. C'était Nathalie Yaneta qui disait quelque chose de très intéressant sur le foot, qui disait qu'il va falloir qu'il se méfie. Parce que le retour de bâton va arriver, le public est en train de se désintéresser du produit. Et il va falloir faire très attention à ça. Sur un même week-end, quand t'as un match de rugby et un match de foot sur la même chaîne et que t'as un écart de quasiment 2 millions de personnes sur les matchs, ça montre quand même qu'il y a un désintérêt.
Exactement.
Ah bah oui, complètement.
On l'a déjà abordé. C'est vrai que oui, on est totalement dans le vrai et c'est tant mieux pour ce genre de sport.
Eh bien, écoute, on se quitte là-dessus, Mathéo. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce qu'on veut attendre en 2025. On parlera forcément du SCO et on parlera avec Amaury et de Cédric de beaucoup d'autres disciplines également. Ciao, ciao. Passez une très bonne soirée. On s'embrasse.
Le jour où on m'a dit...